Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons commencé à déterminer ce que signifie exactement l'expression « œil pour œil, dent pour dent », ainsi que « tendre l'autre joue », comme le Christ le demande dans le sermon sur la montagne. Nous avons vu que Jésus, aussi bien que l'apôtre Paul, n'a pas hésité à défendre ses droits. Il n'a pas tendu l'autre joue dans le sens où certaines personnes interprètent ses paroles. C'est en défendant ses droits que l'apôtre Paul évita le fouet. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Il faut savoir que prétendre faussement être citoyen romain était passible de la peine de mort. Voilà pourquoi ils prenaient tous Paul au sérieux. L'apôtre Paul connaissait la signification des paroles formulées par le Christ. « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Dans ce passage, le Christ commente la loi du juste dédommagement de l'Ancien Testament qui déclare « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Cette loi limitait le dédommagement que l'on pouvait réclamer à quelqu'un. En d'autres termes, si on vous faisait perdre une dent, vous aviez le droit de réclamer une juste compensation pour cette dent perdue. Dans son sermon sur la montagne, Jésus s'adresse au véritable chrétien, à celui qui ne vit plus dans la transgression de la loi, qui s'est repenti et dans le cœur duquel le Saint-Esprit a écrit les lois divines au moment même où il a fait alliance avec Dieu. Jésus amplifie, il magnifie cette loi de l'Ancien Testament en disant « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Le Christ demande-t-il aux chrétiens de se laisser faire par le méchant? Il est bien question ici du méchant. Non, le Christ ne demande pas cela. Souvenez-vous, lorsqu'il a été frappé sur la joue devant le souverain sacrificateur, il n'a pas présenté l'autre joue, il a dit « si j'ai mal parlé, « fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Autrement dit, si j'ai mal parlé, il ne fallait pas me frapper, mais me montrer, m'expliquer ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, tu n'avais pas à me frapper. Son comportement personnel est-il en contradiction avec ses enseignements? Non. Le Christ a été irréprochable dans sa conduite. Il ne nous demanderait pas de faire quelque chose alors que lui agirait autrement. Au contraire, il nous a laissé un exemple à suivre. Mais poursuivons notre lecture dans le sermon sur la montagne. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Le Christ ne veut pas que le chrétien subisse des abus. Au contraire, il doit rester maître de la situation. Il cite l'exemple de quelqu'un qui voulait plaider contre le chrétien pour détenir sa tunique en gage, faisant ainsi pression pour obtenir ce qui lui était dû. S'il voulait plaider, c'est qu'il ne voulait pas voler, mais passer devant un tribunal parce qu'il estimait qu'on lui devait quelque chose. Il voulait une garantie. Mais le Christ ajouta, « Laisse-lui encore ton manteau. » Pourquoi cela? Jésus s'adressait à ses disciples qui connaissaient les lois, et l'une d'elles, qui traite du créancier et du débiteur, précise, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis miséricordieux. » Le Christ explique à ses disciples qu'il faut garder la situation en main. Puisqu'on demande ta tunique, donne aussi ton manteau. De toute façon, celui qui veut plaider contre toi devra te rendre le tout avant le coucher du soleil. Puisqu'il veut plaider, n'attends pas qu'il plaide. Donne-lui ce qu'il veut et ajoute-y ton manteau. Quelle importance, il va devoir te les rendre. En agissant ainsi, tu gardes le contrôle de la situation. Jésus poursuit. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. À l'époque, lorsqu'un courrier urgent devait arriver rapidement à destination, on envoyait une estafette qui, sous les Romains, avait le droit d'échanger son cheval fatigué contre un autre. Il avait aussi le droit de demander l'assistance du premier venu de son choix pour parcourir une distance d'environ 1500 mètres. Ceci présentait certains inconvénients pour la personne réquisitionnée, mais le Christ suggère de parcourir le double de la distance prévue afin de garder le contrôle de la situation. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Jésus ne demande pas de donner à celui qui veut prendre de force, ou de la mauvaise façon. Non, si on te demande quelque chose, choisis de donner. Fais en sorte que cela reste ta prérogative. Il dit, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais selon l'original grec, il ne veut pas, il voudrait, il souhaite emprunter. N'attendons pas d'être importunés et agacés. Donnons de suite, afin que cela soit vraiment notre libre choix. Contrôlons la situation. L'enseignement du Christ est très clair. Après avoir écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », l'apôtre Paul, qui se trouve devant le Sanhédrin, nous laisse un autre exemple. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Pas plus que le Christ, Paul ne tend l'autre joue. Il se défend, non pas en acte, mais en parole. Il connaît ses droits, même ses droits de chrétien. Il n'y a ici aucun esprit de revanche, pas plus qu'il n'y en avait chez le Christ. Il n'y a aucun sentiment de vengeance. D'ailleurs, Paul a écrit que la vengeance appartient à Dieu, qu'un chrétien doit pardonner et non vouloir infliger le mal dont il a souffert. En d'autres mots, nous ne devons pas avoir le désir de rendre le mal pour le mal, nous devons pardonner. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Dire ce que l'on peut dire ou ce qu'on doit dire, ce n'est pas mal agir, pour autant qu'il n'y ait aucune haine dans le cœur ou dans les paroles. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Remarquons les mots « autant que cela dépend de vous ». Si quelqu'un cherche à faire le mal à notre conjoint ou à nos enfants, est-ce mal de prendre leur défense en utilisant la plus grande fermeté, sans le moindre désir de frapper ni de tuer? Paul répond, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Quoi qu'il arrive, la vengeance ne doit pas avoir de place dans le cœur d'un chrétien. C'est l'exemple que le Christ nous a laissé alors qu'il était mourant sur la croix. Il n'a pas dit à son Père, « Souviens-toi de ce qu'ils me font. » Il a dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'apôtre Paul conclut le sujet comme suit, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà une conclusion exemplaire. Pour surmonter le mal par le bien, il faut de la maîtrise sur soi-même. Il faut contrôler son cœur et ses pensées. Par conséquent, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Si quelqu'un vient frapper à votre porte et explique qu'il n'a pas mangé depuis longtemps, donnez-lui de quoi se rassasier et donnez avec abondance, même s'il ne reste plus rien pour vous par la suite. Mais s'il essaye de vous agresser, pour vous arracher votre sandwich au fromage, alors vous ne le nourrissez pas de votre propre volonté, vous n'avez pas le choix dans ce cas précis. L'apôtre Paul s'oppose aux critiques qui lui sont faites. Il écrit « Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent, tels nous sommes aussi dans nos actes, étant présents. » Il demande à ce même Corinthien de réagir, de ne pas se soumettre aux faux enseignants. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, un Jésus qui serait venu abolir la loi, qui ne serait pas resté 3 jours et 3 nuits complets dans le tombeau, ou si vous recevez, ajoute Paul, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, c'est-à-dire un évangile sur la personne du Christ, et non le véritable évangile qui est basé sur le royaume qu'il viendra bientôt établir sur terre, vous le supportez fort bien. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Ce sont des reproches que Paul adresse aux Corinthiens. Ils toléraient que ces faux enseignants leur marchent sur les pieds. Ils avaient le droit de s'opposer à eux. Au lieu de cela, ils restèrent passifs, soumis, encourageant ainsi ces faux docteurs qui leur apportaient des doctrines contraires aux Écritures. L'exemple du Christ est celui d'un sacrifice volontaire. Il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est ici l'essence même du christianisme. Mais est-ce une preuve d'amour que de se laisser assassiner alors que l'on n'a aucune intention de donner sa vie ou ses biens? Une personne fait preuve d'amour chrétien lorsqu'elle ne se sent pas obligée, mais qu'elle choisit volontairement et librement de partager ce qu'elle a avec quelqu'un qui est dans le besoin. Le chrétien ne donne pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Si quelqu'un lui fait du tort, il peut défendre ses droits. Si quelqu'un ne se soumet pas à ses souhaits, il préserve quand même sa dignité, et quel qu'en soit le résultat, il peut croire avec foi ce que Paul écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le vrai christianisme permet une certaine liberté, mais une liberté conforme aux Écritures. Nous devons préserver la liberté que le Christ nous a donnée. En tant que chrétiens, nous pouvons revendiquer nos droits, nous pouvons encore abandonner nos droits et perdre ce que nous possédons, c'est notre choix. Si l'on prenait la peine de lire la Bible, mais toute la Bible qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, alors beaucoup de choses deviendraient claires, car les Écritures se complètent. Malheureusement, elles sont trop souvent l'objet d'interprétations particulières, car chaque dénomination chrétienne s'arrange pour que ces écritures d'inspiration divine s'adaptent à leur enseignement, au lieu d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, sans rien en modifier, sans rien y ajouter. Ce sont toutes ces différentes dénominations qui devraient s'adapter à la Bible et se rappeler que le Christ a déclaré à son Père « Ta parole est la vérité ».